Il est 1h sur Phare FM. Phare FM. La radio autrement avec vous dans la nuit autrement jusqu'à 5h.
La Bible dit:
avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de fautes.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Just a girl.
C'était Paradise de Coldplay. C'est la radio Autrement avec vous, Phare FM, qui vous accompagne jusqu'à 5h. Tout à l'heure, un moment de réflexion, ne le manquez pas, Jésus revient bientôt, de Jean-Marie Ribet dans Pain de vie. Avant cela, de la musique, du prêt, Like You Do, et tout de suite Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Merci de rester avec la radio Autrement, très bonne écoute.
Minuit 5h, la nuit Autrement,
avec Mireille.
maintenant votre message Pain de vie avec le pasteur Jean-Marie Ribet.
Le titre de mon message, c'est « Jésus revient bientôt ». Alors, une chose est certaine, c'est que Jésus revient. L'Église primitive vivait avec cette idée de l'imminence du retour de Jésus. Ils étaient certains que Jésus allait revenir. Pour plusieurs, ils ont eu le sentiment que c'était quelque chose qu'ils verraient. Pour eux, Jésus était parti comme quelqu'un qui part faire un petit voyage et puis il revient. Ils auraient été très surpris si on avait dû leur dire que ça mettrait quand même un tout petit peu plus de temps que ce qu'ils avaient dans l'esprit. On peut lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, les versets 9 à 11. Voilà, alors pour vous situer quand cet épisode arrive, eh bien c'est après que Jésus soit ressuscité, il est apparu aux apôtres et aux premiers disciples pendant quelque temps, il leur a parlé, les enseignait, et puis il y a un jour où cette période intermédiaire s'est terminée. Et ça c'est le jour de ce que nous appelons traditionnellement le jour de l'ascension, où il est monté au ciel, il leur a donné encore quelques instructions, allez par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voyez, prenons bien garde à la dernière phrase. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus clair et de plus limpide que cette phrase-là ? Ce n'est pas une doctrine d'une personne, ce n'est pas un espoir, ce sont des messagers du ciel, des anges de Dieu qui sont venus confirmer une nouvelle, une doctrine qui est dans la Bible depuis toujours et qu'ils ont explicité de la façon la plus formelle qui soit. Ils ont dit à l'Église primitive qui était là toute rassemblée, ils ont dit de la même manière que vous avez vu ce Jésus monter au ciel du milieu de vous, vous le verrez de la même manière descendre et revenir sur la terre. Ce qui veut donc dire que Jésus reviendra sur la terre et qu'il redescendra du ciel visiblement, glorieusement, et que de nouveau il viendra, il posera ses pieds sur cette planète et que tout le monde le verra. Donc la doctrine du retour de Jésus, c'est pas seulement une doctrine, c'est une certitude, c'est un fait acquis, c'est quelque chose qui n'est même pas dans le principe, qui n'est même pas discutable. Et nous prenons la parole de Dieu de manière sérieuse. La Bible, c'est pas un recueil d'idées, c'est pas des présupposés théologiques, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, de tout ce que Dieu affirme, de tout ce que Dieu annonce, jamais rien ne s'est pas réalisé exactement comme Dieu dit. La parole de Dieu est absolument certaine. Elle est oui et Amen. Il n'y a jamais rien dans la Bible qu'on aurait pu mettre en défaut par rapport à l'histoire, par rapport à la science. La Bible n'a jamais été prise en défaut avec rien du tout. Quelquefois, bien sûr, des gens ont cru trouver des failles, des défauts, parce que leur connaissance ou leur capacité à lire la parole de Dieu était quelquefois faussée. Bien sûr, ça c'est possible. Et puis il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, parce que Dieu ne nous a pas tout dit, et parce que notre petite tête actuelle ne nous permet pas de comprendre toute la grandeur de Dieu. Mais en tout cas, la Bible est absolument certaine, et le retour de Jésus est certain. Malheureusement, c'est souvent la question de la date qui fait le plus débat. Bon, vous savez que certains groupements, des fois, ont cru devoir essayer de donner des dates, etc. Et puis, ça s'est pas très bien fini, puisque les dates sont passées et que c'est pas réussi. C'est pas parce qu'il y a eu ces erreurs, c'est pas pour autant que ça remet en question le principe lui-même. Et je crois que c'est normal que nous vivions dans l'attente et dans l'état d'esprit, plus que ça, dans l'espoir, dans le feu d'attendre le retour de Jésus. Ce qui bien que la question de la date exacte est une question finalement assez secondaire. Deuxièmement, tous les auteurs du Nouveau Testament en ont parlé. Je pense même que, à mon sens, c'est certainement la seule doctrine du Nouveau Testament qu'on peut retrouver dans l'ensemble de tous les auteurs. C'est-à-dire qu'on retrouve cette doctrine dans les quatre évangiles, on la retrouve dans les épîtres de Paul, mais aussi dans celles de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude, et jusque, bien sûr, dans l'Apocalypse. C'est la seule doctrine, je pense, qui est aussi partagée, comme ça également, chez tous les auteurs du Nouveau Testament. Par exemple, vous avez dans l'évangile de Matthieu, les chapitres 24 et 25, qui en parlent en entier. Vous avez Marc 13, dans Luc, c'est chapitres 12 et 19. Jean en a parlé aussi, Paul en a parlé, bien sûr, dans les lettres aux Thessaloniciens en particulier. Mais Jacques en a parlé aussi, Pierre en a parlé. Vous retrouvez partout parlé du retour de Jésus. Donc, c'est pas une doctrine secondaire. Non, non, ça fait partie de façon intégrante du corps fondamental de la doctrine évangélique. Et peut-être que dans certains milieux, on hésite à en parler justement à cause des excès qu'il y a pu avoir ici ou là. Alors parce qu'il y a des excès, on veut pas risquer d'être amalgamé avec des gens qui en ont peut-être mal parlé ou dans des intentions qui n'étaient pas toujours très pures. Mais c'est pas parce qu'il y a des excès que ça doit nous faire perdre de vue de garder la totalité, l'intégrité de la parole de Dieu. C'est pas parce que certains ont mal géré, je sais pas, les dons spirituels par exemple, que tout d'un coup on va, bon ben parce qu'il y a des excès, alors on parle plus du parler en langue et on le pratique plus. Non, ça c'est dommage. On garde tout ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas lire évidemment tout ce qui concerne cette doctrine dans le Nouveau Testament. Donc on va lire simplement, par exemple, il y a plusieurs paraboles. Je voulais juste lire celle de Matthieu 25, 1 à 13, c'est la parabole des 10 vierges folles et sages. Voilà, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages en prirent avec leur lampe de l'huile dans des récipients. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on crie: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Les sages ont dit: mais non, ça on peut pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, on va tous se retrouver dans le noir. Et allez plutôt chez des marchands et achetez-en pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, elles dirent: Seigneur, ouvre-nous! Mais il répondit: je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, dit Jésus, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, je rappelle qu'une parabole est faite pour souligner, confirmer un point de doctrine, et non pas pour faire directement, c'est pas un texte doctrinal. Ce que cette parabole est en train de dire, c'est que c'est d'abord que l'époux va revenir, et le point fondamental, c'est qu'on sait pas quand. Donc, il faut être toujours prêt. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez dans la parabole de la proportion de ces 50%. Moi, je trouve ça un peu inquiétant, quoi, je me dis. Bon, c'est dans la parabole, hein, donc on ne fait pas d'application. Mais si on le prenait stricto sensu, ça serait un peu inquiétant parce qu'on pourrait se dire, finalement, il n'y en a que parmi tous ceux qui prétendaient attendre l'époux, il n'y en a que la moitié qui était prêt. Moi, je trouve que ça ne fait pas beaucoup. Toutes les 10 disaient: nous attendons le retour de l'époux. Mais en réalité, pratiquement, il n'y en a que 50% qui l'attendaient et que 50% qui sont réellement rentrés après avec lui. Moi, je trouve que la proportion est une proportion assez grave, c'est assez triste. Mais fort heureusement, une parabole n'est pas faite pour nous donner des éléments quantitatifs. En tout cas, ça montre que l'époux va venir et qu'il y a un risque que chez certains, l'attente les ait démobilisés. On ne peut pas leur en vouloir de s'être endormis, c'était la nuit, mais elles étaient en tort de ne pas être prêtes. Évidemment, c'est l'évidence dans cette parabole, l'huile représente ici la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu dans les cœurs. Alors, elles ne pouvaient pas toutes laisser leurs lampes allumées toute la nuit, sinon évidemment, et ça ne sert à rien. Donc peut-être qu'elles ont réduit leurs lampes un tout petit peu, juste pour qu'elles ne s'éteignent pas tout à fait, que ça fasse une toute petite lumière minuscule pour pas que ça s'éteigne, ou peut-être que quelques-unes se sont arrangées entre elles. Mais quand tout d'un coup on a dit « l'époux arrive », c'est là qu'il fallait que la lumière jaillisse, que la lumière sorte. Et celles qui avaient de l'huile dans les vases en ont remis dans leur lampe, la lumière grandit. Et les autres se sont seulement à ce moment-là rendues compte qu'elles n'en avaient plus. Alors, elles essayaient de vivre sur la provision de ceux qui avaient du Saint-Esprit. Mais ça, ce n'est pas possible. Personne ne peut vivre sur la provision de foi des autres. Personne ne peut profiter pour lui-même de la présence de Dieu qu'il y a dans le cœur de quelqu'un d'autre. Bien sûr, dans un sens, il peut, j'allais dire, en profiter parce qu'il est à la lumière de sa lampe. Mais il n'a plus sa route à lui. Et vous avez des gens comme ça qui vivent quelquefois longtemps avec l'illusion d'être dans la lumière. Mais ils n'ont pas la lumière. Ils sont seulement au bénéfice de la lumière des autres. Ils traversent des zones de présence. Et peut-être ils sortent de l'église en disant « Oh, aujourd'hui, il y avait une présence de Dieu formidable dans l'église. » Oui, mais pas en toi. Tu étais au bénéfice de la présence de Dieu qui était le résultat de la présence de Dieu dans le cœur de ceux qui étaient à côté de toi. C'est bien différent d'avoir la réalité ou de traverser seulement une zone où il y a la réalité. Vous pouvez aussi traverser une zone de présence de Dieu. On est dans l'onction, mais peut-être qu'on n'en a pas. C'est simplement parce qu'on traverse. Comme Saül traversait les zones de la présence de Dieu, il a aussi prophétisé avec un cœur criminel. Il était venu pour tuer son frère. Mais comme il était dans une zone de présence, il a prophétisé. Oh, à la surprise de tout le monde d'ailleurs. Cette parabole, au début je la lisais, moi je la trouvais extrêmement choquante. Parce que si on le lit simplement comme ça, très rapidement, on a l'impression que l'époux est quelqu'un d'assez méchant. Les autres sont arrivées, bon elles étaient un peu à la bourre parce qu'elles avaient oublié de faire des provisions, tout d'un coup la porte est fermée, elles sont restées dehors comme ça, rejetées. Moi j'avais l'impression que c'était dur, mais il faut comprendre qu'une parabole, c'est pas de la doctrine pour nous expliquer de haut en bas quelle est la nature de Jésus, c'est pour nous expliquer un point précis. Et ce point précis, c'est que nous sommes enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en nous, oui ou non? Quand Jésus va revenir, on ne va pas découvrir qu'il y a ceci ou cela dans son caractère. Ce qu'il est a toujours été et sera toujours affirmé, c'est-à-dire que c'est le sauveur, c'est le prince de la paix, c'est le sauveur d'amour. Mais ça révélera aussi que peut-être quelques-uns ne s'étaient jamais décidés pour lui. Ils en avaient l'aspect, mais ils n'étaient pas réellement remplis de l'Esprit de Dieu. Et ça met seulement ça en évidence, mais c'est une vérité qui était acquise depuis très longtemps. Un point suivant, tous les hommes le verront, Matthieu 24, 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc c'est un fait qui est affirmé comme un fait d'envergure plein d'inter. C'est quelque chose qui ne pourra pas être ignoré de personne. Toutes les tribus de la terre, tous les peuples, tout le monde, chacun verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Mais imaginez quand tout le monde va voir le Fils de Dieu qui descend du ciel avec puissance, avec gloire, avec ses anges.
Ça, c'est quelque chose qui est fantastique. La Bible dit « Tous les peuples de la terre le verront ». Alors, qu'est-ce que ce retour implique ? Matthieu 24, 30, que c'est le retour du roi. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est le roi qui revient. Plusieurs fois, dans diverses paraboles, Jésus a parlé de ça clairement. Il a mis en scène des paraboles où il a dit « Un homme de haute naissance est parti pour être investi de l'autorité royale. Pendant qu'il était absent, les gens se sont comportés les uns d'une façon, les autres d'une autre. Il y en a qui ont vaqué à leurs affaires pour leurs petits intérêts et d'autres ont travaillé pour le royaume de Dieu. Mais un jour, il est revenu investi de l'autorité royale. » Jésus est venu une première fois comme l'homme de douleur, hein, habitué à la souffrance, celui dont on détourne le regard, celui qui n'avait rien pour nous plaire, celui qui était humble et qui est entré dans Jérusalem sur un petit âne, dans toute humilité et qui est mort de la mort des malfaiteurs. Mais quand Jésus va revenir, il revient comme le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Écoutez, quand nous allons paraître devant Dieu, nous allons nous faire tout petits. Et c'est la grâce de Dieu qui nous permettra de rester seulement debout. Quand certains des prophètes ont été vraiment dans des visions devant Dieu, plusieurs fois, des gens vraiment spirituels, ils sont tombés par terre, ils étaient comme morts, il fallait que l'ange vienne les toucher pour qu'ils puissent seulement retrouver des forces. Et c'était des statures de prophètes. Alors nous-mêmes, il nous faut nous attendre à être émerveillés par le retour en gloire de Jésus. Ce retour implique la résurrection des croyants. 1 Corinthiens 15, 22, 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voilà, donc on va avoir la résurrection de tous ceux qui s'étaient confiés dans le Seigneur. Dans le même chapitre, le verset 52, en un clin d'œil, il y a la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Regardez comme Paul lui-même vivait dans l'imminence du retour de Jésus parce que lui-même, il s'inclut dans ce « nous ». Lui, il s'imaginait qu'il serait encore là quand cet événement surviendrait. Mais en tout cas, lui, il vivait dans cette imminence. Et aussi le jugement des impies. Matthieu 25, 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront assis à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Voilà le jugement des uns et des autres. Et un peu plus loin, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » C'est le retour de Jésus qui amène le jugement des nations, le jugement des personnes, le jugement de ceux qui ont accepté de marcher avec lui, ceux qui l'ont reconnu, et le jugement négatif, la condamnation de ceux qui se sont rebellés contre lui. Ces choses-là sont écrites dans la parole de Dieu d'une manière extrêmement claire. Ici, on est dans un texte doctrinal où Jésus donne un enseignement, et cet enseignement est extrêmement clair, il est limpide. Et il devrait donner grande attention à ceux qui ne sont pas sûrs d'être des enfants de Dieu, à ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir fait la paix avec Dieu, à ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir reçu le pardon de leurs péchés, à ceux qui ne sont pas certains d'avoir reçu cette nature nouvelle. Mais ceux qui ne sont pas sûrs d'être changés, d'être par Jésus-Christ, d'être devenu quelqu'un de nouveau, cela devrait faire bien attention à un verset comme le verset 41. Parce qu'il y a un temps pour le jugement. ne tombons pas dans des pièges humanistes. Dieu est bon et dans sa bonté, il a donné à chacun le moyen, la possibilité, la grâce de recevoir la vie éternelle. Ça, c'est la bonté universelle de Dieu. Et notre choix, notre réponse, c'est ce que nous faisons de ce don que Dieu nous donne. Et Dieu nous traitera chacun selon les choix que nous aurons faits à ce sujet. Sixième point, c'est que le retour de Jésus entraîne un ordre, c'est celui d'être prêt. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais est-ce que nous sommes prêts? Quelquefois, on a des pensées un peu drôles des fois. Certains, quand on parle du retour de Jésus, il y en a qui sont contents. J'allais dire en même temps, ils n'osent pas le dire, mais pas pressés. Ça montre qu'ils ont peur que dans le royaume de Dieu, les meilleures choses soient moins bonnes que celles qu'ils espèrent ici. C'est pas bien de penser des choses comme ça. Ça montre seulement qu'on n'a pas pris conscience de la nature du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ce qu'on vit, les choses, les sentiments, les sensations qu'on va éprouver sont toutes un million de fois meilleures que ce qu'on a pu éprouver de meilleur ici-bas sur terre. Le mieux qui puisse nous arriver, c'est que Jésus vienne maintenant puis qu'on parte tous avec. Et il nous faut aussi évidemment être prêts, j'allais dire être prêts sérieusement. Ce qu'il nous faut, c'est tellement aimer Jésus que s'il revenait maintenant, on ne voudrait tellement pas qu'il nous surprenne dans une position qui nous ferait honte. Alors il y a beaucoup de signes annonciateurs du retour de Jésus. Matthieu 24, les versets 5 jusqu'à 14. Plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils suivront beaucoup de gens. Après, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux, un autre signe, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc on annonce un temps extrêmement difficile sur toute la terre. On vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Un temps extrêmement difficile pour toute l'Église. Alors aussi, plusieurs succomberont, l'apostasie dans l'Église professante, hein, mais non vraiment régénérée. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Hein. Des faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens parce que les gens chercheront ce qui leur plaît et non pas la parole de Dieu. Et parce que l'iniquité dans le monde se sera accrue, il n'y aura plus de morale, l'abandon de toutes les lois, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Voilà le dernier signe objectif, c'est que l'évangélisation sera faite sur la face de toute la terre. Tous les peuples auront entendu parler de Jésus pour servir de témoignage à toutes les nations, ethnos, c'est-à-dire les peuples, pas seulement les nations politiques, mais toutes les ethnies, tous les peuples. Alors viendra la fin. Ces signes sont à la fois des signes concrets, mais ils ne sont pas quantifiables. Parce que des tremblements de terre, il y en a toujours eu, des guerres, il y en a toujours eu. Toutes ces choses ont toujours toutes existé. Mais c'est une recrudescence, une accumulation. Et moi, je trouve quand même que, par exemple, il y en a un comme celui des séismes. Eh bien, je trouve quand même que depuis 10 ans, peut-être, il y a une accumulation de séismes de très grande envergure. Rappelez-vous de l'histoire du tsunami, l'histoire en Haïti, mais il y a des séismes partout. Il y en avait encore un en Italie il n'y a pas si longtemps. Si on additionne le nombre de malheureuses victimes qu'il y a de tous ces séismes, on est obligé de constater qu'il y a une recrudescence. L'évangélisation du monde est en train de s'accentuer, s'accélérer aussi. Et puis alors un autre signe qui n'est pas dans cette liste-là, c'est le retour d'Israël sur sa terre depuis 1948, ce qui est un changement complet après 19 siècles quasiment dans l'histoire d'Israël et qui correspond à l'accomplissement de toute une liste de prophéties bibliques. Le point numéro 8, c'est que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc ne vous laissez pas raconter des histoires par des gens qui auraient calculé si ça, c'est forcément faux. Parce que Israël était revenu sur sa terre en 1948 et Jésus a dit « ces choses-là ne s'achèveront pas, une génération ne passera pas, que tout soit achevé ». Non, il faut arrêter avec ces trucs-là. Mais ce que je veux seulement dire, Dieu ne nous a pas donné des moyens objectifs de faire des calculs comme ça. Donc si des gens en font, haussez les épaules, occupez-vous d'autre chose, ne discutez pas, ça vaut pas le coup. Quelle est la chronologie des temps de la fin? Ça a aussi donné énormément de discussions. Comment ça va se passer? Il va se passer ci, il va se passer quoi? Comment? Dans quel ordre? Il y a différents scénarios possibles. Mais je vous dis franchement, à mon sens, je ne crois pas que les livres comme le livre de l'Apocalypse, que j'ai quand même assez étudié, ou d'autres livres prophétiques, je ne crois pas que le but de Dieu soit de nous donner à l'avance une espèce de scénario, une espèce de listing chronologique de tout ce qui doit se passer à la fin des temps. Dieu nous a donné des repères et nous allons reconnaître au fur et à mesure les indications qu'il nous a données. Et je crois que c'est pas une bonne approche. À mon sens, des livres comme l'Apocalypse sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour nous fortifier. Si vous lisez l'Apocalypse pour vous fortifier, pour chercher dedans la gloire de Christ, sa puissance, sa souveraineté, sa victoire totale, alors c'est un livre qui vous fortifie, c'est un livre extrêmement tonique, dynamique. Sinon, il fait peur, quoi, hein. Une approche classique, c'est de penser qu'il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église qui monte au ciel, et puis après il y a une période de 7 ans pendant laquelle les nations continuent de vivre, il y a un temps de jugement, la conversion d'Israël, et puis seulement 7 ans après, le retour de Jésus sur la terre. J'ai cru à cette approche pendant longtemps. Aujourd'hui, après avoir bien étudié la parole de Dieu, je souscris plus à ce schéma. Je comprends et j'admets tout à fait que certains y croient. Donc si quelqu'un y croit, c'est bien. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Moi, je crois que le retour de Jésus se fait dans un temps. En un temps, il n'y a pas un temps avec ses 7 ans d'intervalle, mais il y a un temps. Jésus revient. Et je vais vous dire un truc. C'est que nous ne serons pas avec Jésus en fonction de savoir s'il nous a envoyé à ce sujet la bonne doctrine, mais en fonction de savoir s'il est dans notre cœur. Et même si quelqu'un se trompe d'une façon ou d'une autre, ça ne change rien par rapport à ça. Même s'il y a effectivement un enlèvement et qu'on doit tous partir au ciel et que les choses continuent ici, ce n'est pas parce que je n'y aurais pas bien cru que je ne veux pas partir, je pars avec. Mais je pense que ce n'est pas une bonne herméneutique, ce n'est pas une bonne approche biblique. Alors la dernière question, c'est que le retour est imminent et que c'est difficile à la fois de dire que Jésus revient bientôt et d'admettre que ce bientôt dure depuis 2000 ans. C'est quand même un petit peu difficile. Paul lui-même disait « nous » en parlant de la génération qui assisterait à cet événement. Donc lui se voyait encore dedans. Ce qui ressort de l'évangile, c'est que Jésus nous dit de considérer que son retour est toujours proche. Il est là, il est à la porte. Et que dans notre cœur, dans notre état d'esprit, c'est ça que nous devons cultiver. Et puis ensuite, la meilleure façon d'hâter le retour de Jésus, c'est de participer à l'évangélisation de toutes les nations. Parce que, comme on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Or, effectivement, ceci n'est pas encore réalisé. Et je terminerai avec un dernier verset, 2 Timothée 4, 8. Paul est là, 2 Timothée, c'est son dernier écrit que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est un petit peu comme son testament spirituel, c'est la dernière lettre qu'il a écrite. C'est Paul un peu âgé qui dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée ». Il savait à ce moment-là qu'il arrivait au bout de sa course. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Le défi pour nous, c'est pas de tout comprendre. Le défi, c'est d'être prêt et d'aimer son avènement. J'aime l'idée du retour de Jésus. J'aime l'idée qu'il va revenir sur la terre et qu'il va revenir juger. Je crois qu'il y aura un temps, alors qu'on l'appelle millénium, qu'on l'appelle règne de Christ, c'est pas la question. Cette notion de 1000 ans, soit à prendre au sens arithmétique ou pas, c'est pas la question, mais je crois réellement à un temps où Christ va régner sur la terre avec les saints. Je crois vraiment. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui en parlent de manière très concrète. J'imagine ce que deviendrait l'humanité et notre planète si elle était seulement bien dirigée. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il suffirait que les nations soient dirigées d'une manière juste, d'une manière sage, pendant 1 an ou 2 pour que le monde, la terre entière, serait transformée? Si seulement pendant 1 an ou 2, toutes les nations suppriment le budget de défense, le budget de l'armée, si on supprimait ça simplement une année, mais en une année, on résout tous les problèmes économiques, matériels de toute la planète. Mais il suffit que Jésus arrive et qu'il règne là avec les siens. Il suffit que Jésus arrive, mais en une année, mais le monde est méconnaissable. Tout est résolu d'un point de vue social, économique, tout, la pauvreté, la faim, même les questions écologiques, parce que les solutions, elles existent. Il suffirait que Jésus vienne et que tout soit fait dans le droit et dans la justice. Mais le monde serait... Et moi, je crois que cette création ne s'achèvera pas simplement, comme l'a dit Pierre, en étant dissoute, comme si elle disparaissait, puis tout sera après au ciel. Oui, à la fin, ça je crois aussi. Mais je crois qu'il y aura un temps pour la gloire de Christ sur sa création. Dieu ne va pas terminer cette création sur un échec. Mais au contraire, il va accomplir ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il a prévu va se réaliser parfaitement. Et ça va donner gloire. Les myriades d'anges, ah, les gars, ils vont être scotchés. Quand ils vont regarder ce qui se passe sur la terre, dans la création, dans l'humanité, ils vont dire, mais c'est incroyable. Gabriel, t'as vu? Oh, dis donc, Michel va dire, bah, Dieu est fort. Hein. C'est ce Jésus que nous attendons qui va descendre du ciel. Peut-être aujourd'hui. Amen.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Écoutez, c'est Phare FM.
Broken hearted tears, forever kind of rain. Alone with all my fears, can't escape the pain. Tired of holding on, I'm running out of faith. Lord, I try, but I know something is coming in the morning. If I can make it through the night, whatever comes, head or high water, I know what's on the other side. I know what's on the other side. Called my phone, said he passed away. Hard to help a friend when you don't know what to say. All the questions and she still chose to pray. So I'll try, 'cause
Tori Kelly, High Water sur Phare FM. Il est 1h47 et notre musique s'y poursuit avant de retrouver Hommes et Femmes, Mode d'Emploi. Le thème de ce mardi, les besoins chez la femme, c'est le premier d'une série. Et puis on va écouter avant cela de la musique Switchfoot, I Won't Let You Go, et tout de suite Héloïse avec Plus de place pour ta peine. J'espère que vous allez bien, très bonne écoute.
L'emporterai loin d'ici, dans une vie meilleure. Je ne serai plus personne, voler ton bonheur. Je dessinerai le soleil sur tes joues, j'effacerai les bleus de ton cou. Dans cette vie, tu tu n'auras plus peur. À quoi bon tous ces cris? Pourquoi rester ici? Est-ce comme ça que les gens s'aiment? Y'a plus de place pour ma haine, mon enfant sale et étroit. Tout mon cœur crie, je t'aime, mais le monde ne l'entend pas. Y'a plus de place pour ta peine, viens, je t'emmène avec moi. J'ai beau hurler en silence, et pourtant tu restes là. Maman, je voulais être docteur, mais je suis devenue flic. Pour leur faire peur à tous ces voleurs de vie et de douceur. Je me revois les yeux fermés à chercher le sommeil. J'en voulais au monde entier de le laisser faire. Moi je rêvais même de lui rendre l'appareil. À quoi bon tous ces cris? Pourquoi rester ici? Est-ce comme ça que les gens s'aiment? Y'a plus de place pour ma haine. Tout mon cœur crie, je t'aime, mais le monde ne l'entend pas. Y'a plus de place pour ta peine, viens, tu t'emmènes avec moi. J'ai beau hurler en silence, et pourtant tu restes là. Y'a plus de place pour ma haine. Tout ça, c'est derrière toi. Maintenant, je peux partir. Moi, je serai toujours là.
When it feels like surgery and it burns like third degree and you wonder what is it worth. When your inside's breaking in and you feel that ache again, and you wonder what's giving birth. If you could let the pain of the past go, of your soul, no less is in your control.
Go, oh, you're so, no, this is les femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Nous parlons aujourd'hui des besoins chez la femme.
Être aimée.
Eh oui.
C'est un grand mystère. Pour les hommes, 99,99% des femmes vont dire « J'ai besoin d'être la numéro un dans la vie de mon mari. Oui. Me sentir aimée. »
De sentir que tu passes avant tout,
avant
le,
tout
reste.
Le reste.
Et la plupart des maris vont dire « Mais ma chérie, je t'ai épousée, donc je ne peux pas. » »«
Je t'aime. » »«
Mais voilà, je t'aime. Et si ça change, je te le dirai. » Mais
c'est des preuves. Tu as besoin de preuves d'amour. Allez. Quand tu es sur ton ordinateur, tu fermes l'ordinateur, le téléphone, il est là-bas. Et que voilà.
Mais je vais te donner...
Il n'y a que moi.
Tu viens de donner des actions très pratiques qui vont permettre à Guillaume de te faire sentir... Ouais. La première.
Quand tu penses, c'est super bête, hein. C'est tout,
ouais,
tout
mais
simple.
C'est, mais c'est ça tellement change essentiel, la vie.
Quoi.
Ça change la vie.
Ça va réduire le nombre de raisons pour lesquelles on se dispute à quasiment rien. Quand on commence à mettre les listes de besoins de l'autre en pratique et qu'on vit avec cela au quotidien et qu'on s'améliore, eh bien, la qualité de la relation va littéralement exploser et ça va se ressentir dans tous les domaines de notre couple. Et il va y avoir une atmosphère qui sera changée. Et évidemment, Christ est le moteur de tout cela. C'est simplement apprendre le langage de l'autre.
Et j'allais te dire, quand tu as ce sentiment d'être aimé, tu te sens en sécurité et tu sens que, bah, du coup, tu es bien. Et tu peux être toi-même et tu es libre d'être ce que tu es.
Oui.
Donc, il va falloir que tu creuses, que tu continues à creuser pour lui donner d'autres pistes, en fait. Parce que tu vois le visage de Guillaume au démarrage, il a plein de pistes.
Il fallait me le dire.
Par exemple, je vais vous en donner une des miennes. Mm-hmm. Si Eric est en train de discuter dans un groupe et que je rentre dans la pièce, s'il s'arrête, ça va lui prendre 20 secondes. Mais s'il dit, ah, laissez-moi vous présenter ma...
Superbe.
Voilà, il faut un adjectif qui change à chaque fois. Femme. C'est une phrase, mais il a interrompu ce qu'il faisait pour me présenter aux gens avec qui il était. Il peut pas le deviner, parce que j'aime pas du tout les compliments. Surtout pas en public, mais celui-ci, là, ça me change la vie. La deuxième chez la femme, c'est qu'elle a besoin de sentir que son mari est le chef spirituel de la famille. Ça te parle ?
Ah oui, oui, complètement. Bah, c'est pareil, c'est pour moi, c'est ce qui me sécurise. C'est qu'il y a des moments où je peux le challenger en lui disant, mais est-ce que vraiment tu sens que c'est ce que le Seigneur te demande ? Est-ce que tu t'es mis devant le Seigneur dans cette décision ? Est-ce que tu sens que c'est vraiment ça ? Et s'il me dit non, bah, je me sens pas en sécurité. Alors que s'il me dit oui, j'ai placé ça devant le Seigneur, c'est une conviction dans mon cœur, je suis en paix.
Cette sécurité spirituelle, c'est comme un toit de la maison qui couvre en fait la famille et qui protège. Ça vaut le coup de continuer de creuser pour que tu arrives à mettre des mots précis pour que Guillaume sache exactement. Par exemple, est-ce que quand il a reçu quelque chose de Dieu, il vient t'en parler et te dire je viens de lire un truc super, je voudrais t'en parler, ou c'est toi qui dois le définir en fait pour que Guillaume il sache exactement les étapes.
Ouais, de la même manière, Guillaume ne peut pas essayer de deviner ce qui va fonctionner avec toi. Même si je pense que, sans aucun doute, dans ce que tu as dit, tu étais sans doute très proche de la vérité.
Tu pourrais être plus précise.
Mais si tu es plus précise et que Guillaume, en quelque sorte, a la liste des actions concrètes et sait exactement, ça touchera ton cœur à chaque fois à la perfection.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Phare FM, une autre musique.
Continue learning. I never meant. those things to you. And so I have to say before I go.